l'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. Lors de l'émission du début d'avril, je vous ai signalé, quelques jours avant son vernissage, l'exposition « Le Mont Athos et l'Empire byzantin, trésor de la Sainte Montagne ». Vous avez encore une semaine, jusqu'au dimanche prochain, 5 juillet, pour aller voir ou revoir cette splendide exposition au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. C'est une occasion extraordinaire d'admirer à Paris des œuvres, icônes, manuscrits enluminés et objets liturgiques qui n'ont jamais quitté le Mont Athos, en dehors de celles présentées à Thessalonique lors d'une exposition en 1997. Le vernissage de cette exposition historique du Petit Palais a eu lieu le 9 avril en présence de Sa Sainteté Bartholomée, le patriarche œcuménique, du premier ministre de la Grèce, Kostas Karamanlis, du ministre grec des Affaires étrangères, Dora Bakoyanis, et du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Parmi les moines de la délégation officielle de la Sainte Montagne qui ont participé au vernissage, j'ai rencontré le père et au moine français Macaire du monastère Atonit Simonos Petra. J'ai demandé d'abord au père Macaire de nous donner ses impressions.
En tant que membre de la délégation de la Sainte Communauté du Mont Athos, nous sommes venus pour l'inauguration de cette exposition. Nous avons été très favorablement impressionnés par la qualité de la présentation des objets que nous avons donnés. Le thème de l'exposition était sur le rapport entre l'Empire byzantin et le Mont Athos. Donc les objets sont limités à ceux qui sont de l'époque byzantine, donc avant la chute, avant le XVe siècle. À part quelques exceptions, tous les objets sont de l'époque. Et de montrer la relation intime et organique qu'il y avait entre l'Empire, entre l'Empereur lui-même et le Mont Athos. Donc toutes les donations, les privilèges qui ont été accordés par les empereurs, les chartes de fondation des monastères, des icônes, des manuscrits qui ont été donnés par les empereurs. Et donc, là, ça met en valeur véritablement le lien intime et organique qu'il y avait entre la Sainte Montagne de l'Athos, comme centre monastique, mais protégé et fondé par les empereurs byzantins. Parce que depuis le Xe siècle, lorsque Saint Athanase Latonite a fondé le premier grand monastère cénobitique, c'était sous l'initiative de l'empereur qui voulait lui-même devenir moine, Nicéphore Phocas. Il n'a pas pu le devenir moine, il était trop occupé par ses guerres, mais il a soutenu et après ses successeurs ont continué d'avoir le Mont Athos comme lieu privilégié et comme équivalent spirituel de l'Empire. Donc c'est une chose qui est difficile à comprendre dans nos sociétés sécularisées, où pour Byzance, les centres monastiques étaient le poumon de l'Empire. Et c'est pour ça qu'il y avait une sorte de compétition entre les empereurs, les princes, après des autres pays orthodoxes, après même la chute de Byzance, pour fonder des monastères, pour avoir un monastère au Mont Athos, pour avoir une présence et à la fois politique et spirituelle au Mont Athos, mais d'avoir cette dimension, de donner cette dimension spirituelle à leur pouvoir politique. Donc une mentalité très différente de la mentalité actuelle. Et c'est selon ces principes-là, qui avaient été donnés donc depuis la fondation du Mont Athos au Xe siècle, que la Sainte Montagne continue d'être organisée et de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a parmi les objets exposés une des premières chartes de fondation du Mont Athos du Xe siècle, signée par l'empereur, et qui accorde donc des privilèges fiscaux et d'organisation. Et le système politique qui est accordé par l'Empire au Mont Athos est le même, organiquement, avec quelques différences de détails, le même qui est jusqu'à aujourd'hui. Le Mont Athos est organisé comme une entité politique semi-auto-administrée, donc qui appartient à l'État grec mais qui a sa propre administration. Et ce sont ces institutions qui sont identiques depuis le Xe siècle. Donc le Mont Athos est l'État, donc le statut politique le plus ancien du monde.
On peut dire que c'est le seul État moderne qui n'a pas changé à partir de l'époque byzantine.
N'a pas changé. Et ce qui est très frappant, ce que me disaient encore donc les membres de la délégation, la Sainte Communauté qui sont présents aujourd'hui, donc qui sont le gouvernement du Mont Athos, et en fait le système de gouvernement monastique du Mont Athos est le plus démocratique du monde. Parce que ce n'est pas un système de partis où après le peuple délègue son pouvoir à des partis qui après font leur propre politique, mais toute décision est prise par l'ensemble des 20 grands monastères et des représentants des monastères. Donc il n'y a aucune décision qui sont prises au Mont Athos où il n'y a pas les monastères qui donnent leur avis. Évidemment, les moines simples, les moines ordinaires ne participent pas à l'administration, mais chaque monastère tout le territoire est divisé entre les 20 monastères, et chaque monastère a part au chapitre et décide de toutes les questions communes du Moatos. Mais chaque monastère a son autonomie propre. Et donc ce sont toutes ces institutions d'ordre politique, d'ordre administratif, d'ordre fiscaux, qui permettent la vie spirituelle du Moatos. C'est grâce à ces institutions qui existent depuis le Xe siècle que la vie spirituelle a pu être préservée au Moatos et que des hommes pris justement sans distraction peuvent se diriger vers Dieu sans avoir aucun souci des choses de ce monde, parce qu'il y a ces institutions qui les protègent. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des moines qui prient au Moatos pour le monde, pour la paix du monde entier, parce qu'ils sont protégés, comme ils étaient protégés par les empereurs autrefois, ils sont protégés par les institutions qui sont reconnues par l'État grec et aujourd'hui par la communauté européenne. Et donc c'est un paradoxe du monde sécularisé ou actuel qu'il y ait un lieu comme le Moatos qui reste encore la sainte montagne, même pour l'Europe.
On peut dire que si les Grecs ont inventé la République, le Moatos aujourd'hui c'est la plus vraie démocratie, même s'il est tellement différent par rapport à tous les autres pays et régions de la communauté européenne.
Exactement, donc on pense que c'est une théocratie, donc c'est certes une théocratie, un gouvernement monastique consacré à Dieu, mais comme système d'organisation, comme fonctionnement d'organisation, c'est un prototype, c'est un modèle pour l'Europe elle-même. Parce qu'il y a justement un modèle de démocratie. Mais évidemment, avec des principes spirituels qui sont fermes. Mais c'est précisément parce que ces principes sont fermes et profonds qu'il y a pu avoir une pérennité des institutions. Et donc, les moines ne s'occupent pas de politique, ne s'occupent pas d'actualité, ne s'occupent que de regarder vers le ciel et vers l'éternité. Mais justement, ils ont ce sens de la tradition. Et comme vous savez, tradition en latin, ça veut dire tradere, ça veut dire transmettre. Et donc, pour nous, moines orthodoxes, tradition signifie transmettre une expérience de Dieu. Et ce que le rôle de la Sainte Montagne dans l'Église orthodoxe et pour le monde chrétien en général, c'est d'être ce témoignage d'une expérience de Dieu transmise de génération en génération et d'un goût du Dieu vivant. Non pas une idée sur le Dieu vivant, mais une expérience vécue du Dieu vivant.
Souvent que cette exposition est surtout une occasion unique pour les femmes qui ne peuvent pas entrer au Moatos également, de voir ces objets. Mais en effet, même pour les hommes, c'est une occasion extraordinaire parce que moi, j'étais au Moatos plusieurs fois, 5 fois, mais on ne voit pas tous ces objets. Ils sont même cachés dans les trésors.
Même les moines ne les voient jamais. Donc nous, la plupart de ces objets, je ne les avais jamais vus.
Voilà, il faut venir à Paris comme moine atonite pour voir certains objets. Quels sont les monastères les mieux représentés ici au musée?
C'est surtout le monastère de Vatopédi, qui est le monastère le plus riche en point de vue objets précieux et le plus grand monastère. Et donc c'est celui qui a donné le plus d'objets là, pour cette exposition. D'autres monastères comme le nôtre de Simonos Petra a eu pas mal de péripéties dans son histoire. Donc bien qu'il ait été fondé au XIIIe siècle, il a eu plusieurs incendies, donc on a peu d'objets de l'époque byzantine. Mais certains monastères, comme par exemple le monastère de Pantocrator, qui a eu pas mal souffert, manquant beaucoup d'objets, a donné par exemple un manuscrit du IXe siècle, ce qui est très rare, avec des miniatures. Et aussi la Sainte Communauté, donc du gouvernement central du Moatos, qui a un trésor, et qui a donné des icônes et des actes d'archives, et des manuscrits, 10e, 11e, 13e siècle.
Quel était le but du point de vue des moines atonites de participer à cette exposition ?
Ce n'était pas l'initiative des moines atonites. C'était l'initiative du gouvernement grec, de la ministre des Affaires étrangères, et donc qui, en insistant auprès de la communauté, la Sainte Communauté, pour qu'elle puisse sortir, parce que les moines sont toujours réticents à sortir leurs trésors, non pas par jalousie, mais justement par souci de leur responsabilité devant l'histoire et de, justement d'éviter de transformer le Mont Athos en un centre culturel. Et donc ça a été pas assez difficile, c'est pour ça que cette exposition a été retardée. Normalement elle aurait dû être organisée l'année dernière, mais justement c'était par réticence de la part des monastères, et c'est pour ça que seulement 10 monastères ont donné des objets, mais qui sont quand même très impressionnants et qui témoignent très bien de la richesse de la Sainte Montagne.
Et votre monastère, Simonos Petra, qu'est-ce qu'elle a donné comme objet le plus important ?
On a trois objets. On a des portes d'iconostase du XIVe siècle. On a un encensoir à main du XVe siècle. Et on a une broderie qui est un peu plus tardive, je crois, du XVIe siècle, mais qui est en fil d'or avec le style byzantin. Donc, toute une broderie de la Nativité du Christ, en soie et en fil d'or.
De votre point de vue comme moine atonite français, quel est le bénéfice surtout de cette exposition en première absolue ici à Paris? Quel est le bénéfice spirituel pour les visiteurs?
C'est un témoignage important. Je vous dis, pour le Mont Athos n'a aucun intérêt, ni économique, ni de perspective missionnaire ou autre. Mais donc, comme c'était l'invitation du gouvernement, donc, comme on a comme une collaboration avec le gouvernement grec, la Sainte Communauté a finalement décidé d'accepter de sortir ces objets. Et pour nous, c'est un souci, si vous voulez, de témoignage, tout le monde, de la richesse de l'orthodoxie et de son lien avec Byzance. Mais ce lien avec Byzance qui n'est pas une référence du passé, qui n'est pas une nostalgie romantique, si vous voulez, d'un passé révolu, mais qui est vivant. Donc tous ces objets, pour nous, c'est des objets liturgiques, sont des objets sacrés, et que justement qu'on approche qu'avec révérence et avec dévotion. Ce ne sont pas des objets de musée. Donc on les présente dans un cadre d'une exposition, donc à caractère de musée, mais qui ont une dimension spirituelle avant tout. Et donc pour nous, avant tout, c'est un témoignage du monde de cette spiritualité byzantine, pour nous, qui est, si vous voulez, Byzance pour l'orthodoxie, et en particulier pour le Mont Athos. Donc ce n'est pas cette référence au passé, mais c'est un élément qui est devenu permanent de la spiritualité de l'orthodoxie.
Justement, on peut dire que l'Empire byzantin continue à vivre dans ce qu'il a eu de mieux à travers l'Église orthodoxe de par le monde. Exactement. Mais au Mont Athos, on a le sentiment vraiment que
Byzance vit. Et donc tous les aléas politiques de l'Empire byzantin, donc avec les faiblesses humaines, les guerres, etc., c'est un aspect donc extérieur de l'histoire byzantine. Souvent qu'on présente justement l'histoire byzantine. Mais pour nous, orthodoxes, et surtout pour nous, moines atonites, Byzance, c'est aussi autre chose. Byzance, c'est la réalisation sur terre d'une image autant possible, d'une icône du royaume des cieux. Et donc Byzance après Byzance, Byzance après la chute politique de Byzance, Byzance est un élément permanent de l'Église orthodoxe parce que justement c'est une icône vivante du royaume des cieux.
Raphaël Ziadeh, responsable du département byzantin du Petit Palais, est le commissaire français de l'exposition. Je lui ai demandé pour quelle raison cette exposition est-elle une première.
Le mont Athos abrite depuis plus de 1000 ans 20 monastères qui ont reçu en héritage un grand nombre de trésors d'art byzantin. Et ces trésors sont pour la plupart inaccessibles, d'abord parce que le mont Athos est interdit aux femmes, mais également parce que les hommes qui y vont avec un visa, pèlerins ou scientifiques, eux-mêmes n'ont pas accès forcément aux sacristies ou aux bibliothèques. Donc aujourd'hui, ces trésors viennent jusqu'à nous. C'est une première mondiale, car ces œuvres ne sont jamais sorties de Grèce. Le public parisien, français, européen et même mondial va pouvoir les découvrir.
Comment avez-vous pensé cette exposition, du point de vue organisation, chronologie ?
Nous cherchons d'abord à faire comprendre la naissance du mont Athos, l'arrivée de saint Athanase, ce qu'elle représente comme modèle nouveau qui s'impose sur la Sainte Montagne en 963. Jusque-là, les communautés qui étaient présentes étaient plutôt des ermites. Saint Athanase, lui, importe un modèle de vie en commun, le modèle cénobitique. Il va aussi être à l'origine d'une grande réforme agraire qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de la région. Saint Athanase aura aussi un rayonnement immédiat. Il va attirer des personnalités du monde chrétien et au-delà de l'Empire, la Géorgie, les Slaves, et tout ça de façon très rapide. C'est cette histoire-là que nous avons voulu raconter, également les liens permanents avec les empereurs de Byzance qui ont réglementé le mont Athos, qui lui ont offert nombre d'objets qui sont présents dans l'exposition. Et enfin, nous avons voulu montrer toute la diversité de cet art byzantin conservé au mont Athos, c'est-à-dire les icônes, les manuscrits, les bijoux et les objets liturgiques.
Et parmi les objets qui sont exposés, quels sont les plus intéressants de votre point de vue ?
Alors, on peut réfléchir, on peut les aborder par collection. Il y a une très belle collection de chrysobulles. Ce sont ces documents impériaux signés par les empereurs qui portent une bulle d'or qui donne ce nom, ce terme de chrysobulle. Là, on peut voir la main même des empereurs puisque ce sont eux qui signent ces documents. Il y a aussi un ensemble exceptionnel de manuscrits. Le plus ancien est du 9e siècle. Il a été un psautier peint juste après la crise iconoclaste. C'est un des plus beaux manuscrits byzantins. Il rivalise avec d'autres œuvres, d'autres manuscrits présents aussi. Et il faut signaler aussi des icônes. Parmi les plus belles, il y a celle peut-être de Pantsélinos, ce peintre byzantin mythique dont on sait assez peu de choses, mais qui a laissé son nom sur des œuvres. Et nous avons deux icônes de lui, un très beau Saint Démétrios et un très beau Saint Georges.
Quels sont les monastères du mont Athos qui sont les mieux représentés ici ?
Le monastère de Vatopédie a prêté beaucoup d'œuvres, également Iviron. Et le Pantocrator principalement, mais nous avons 10 prêteurs sur les 20 monastères.
Comment s'est passée la collaboration avec les monastères du mont Athos ?
La Sainte Communauté a donné son avis régulièrement sur toutes les décisions qui étaient prises d'un point de vue scientifique et d'organisation. Mais notre partenaire essentiel immédiat a été le ministère des Affaires étrangères grec. Et en particulier pour moi qui suis commissaire français, c'est mon homologue grec commissaire qui m'a apporté une aide constante.
Et pourquoi le choix de Paris pour cette exposition, justement, qui aurait pu avoir lieu ailleurs en Europe ?
Alors Paris s'est imposé, nous en sommes très heureux. Il faut signaler que Paris, enfin la France a une très grande tradition en termes de recherche byzantine. Elle a donné naissance à des grands byzantinistes. Je citerai la mémoire de Paul Lemerle, qui avait initié en France la publication des actes de l'Athos juste après la Première Guerre mondiale. Et cette publication continue aujourd'hui avec de très grands chercheurs. Paris est aussi centrale, c'est la capitale des arts et des lettres, comme l'a souligné la ministre des Affaires étrangères grecque. Et enfin, le Petit Palais a une collection d'icônes qui fait écho, qui résonne avec cette exposition du mont Athos.
Justement, c'est la plus grande collection publique d'icônes de France, n'est-ce pas ?
Oui, c'est la plus grande collection publique. Nous avons 80 icônes, ce qui est rare en France, avec tout l'art de l'icône qui est représenté, les icônes grecques, les icônes russes. J'invite le public à venir les découvrir.
Il y a à peu près un mois, il y a une exposition Byzantium à Londres. Voilà, quelques semaines plus tard, une exposition sur le mont Athos et l'Empire byzantin. Est-ce que c'est symptomatique pour un intérêt sur l'Empire byzantin qui se réveille en Occident apparemment cette année ?
Oui, le succès de l'exposition Byzantium à Londres est tout à fait impressionnant. Il y a eu 325 000 visiteurs. D'ailleurs, le Petit Palais avait prêté des œuvres de la collection permanente, un très beau coffret en ivoire et une plaque représentant la Vierge en trône. Les deux objets étaient du Xe siècle. Alors oui, il y a un engouement pour le monde byzantin qui est tout à fait légitime et une attirance tout particulièrement pour l'art de l'icône. On le voit en France où les ateliers d'icônes se sont beaucoup développés ces dernières années. Et d'ailleurs, nous avons au Petit Palais un atelier d'icônes bi-hebdomadaire qui est très demandé.
Donc on peut dire que cette exposition participe aussi par sa présence à Paris et de cette découverte à nos jours des racines byzantines de l'Europe.
Oui, la culture byzantine a joué un rôle fondamental dans la constitution d'une identité européenne. Elle est assez mal connue de l'Occident et elle permet aujourd'hui de certainement faire tomber des préjugés sur Byzance. Elle permet d'avoir accès à cet art d'un extrême raffinement qui d'ailleurs avait énormément impressionné les croisés lorsqu'ils sont arrivés à Constantinople. Oui, ce sera une découverte pour le public.
Nous avons demandé au philosophe chrétien orthodoxe grec Christos Yannaras, professeur de philosophie à l'Institut d'études politiques d'Athènes, de nous dire quelle devrait être, selon son opinion, l'attitude de l'Église par rapport à la modernité.
La modernité, c'est une culture, une civilisation qui a été formée depuis 2 siècles déjà. Alors, je crois, j'exprime un avis personnel, que l'Église n'a pas compris qu'est-ce que représentait exactement la modernité par rapport à la tradition ecclésiale et culturelle de l'Europe. En tout cas, la modernité était une autre culture, et elle est encore, c'est très bien clair, c'est le triomphe du matérialisme. Le matérialisme à deux faces, si vous voulez. En Roumanie, vous avez vécu l'une des deux faces, la face du marxisme. Mais un penseur marxiste très grand, Lukács, disait d'une façon très juste, à mon avis, que le matérialisme historique n'est pas seulement l'identité du marxisme, c'est aussi l'autoconscience du capitalisme. Qu'est-ce que c'est cette société de la consommation dans laquelle nous vivons, où nous voulons vivre dans cette société à tout prix? Pourquoi la Roumanie, la Grèce, la Chypre aussi voudraient entrer à l'Union européenne? Pour quelle raison? Exclusivement et seulement pour arriver de réaliser pleinement ce qu'on appelle société de consommation, c'est-à-dire pour des raisons purement économiques. Ce qui est donné maintenant, c'est la soif du peuple de laisser à côté l'Église, la tradition, la culture, tout, pour saisir la consommation. Alors, j'oserais dire qu'il faut nous concilier avec l'idée que dans ces circonstances, l'Église représente la même chose que la poésie ou la qualité de la peinture, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas désirables pour tout le monde. Non, il y a très peu de gens qui s'intéressent de la grande poésie, de la peinture très élevée, de l'architecture qui exprime vraiment une autre vision de la réalité de l'espace. Non, la plupart des gens veulent seulement la consommation. Alors l'Église doit retrouver son identité du petit levain dans la farine du monde, du petit troupeau dans la réalité sociale. Je crois que c'est la vocation de l'Église dans les circonstances de la modernité. La tradition ecclésiale orthodoxe représente l'aristocratie de l'Europe. Alors, il faut trouver notre identité, c'est-à-dire notre témoignage ecclésial dans le temps moderne, dans la situation actuelle, témoigner la réalité de l'Église, qui est une autre chose que la religiosité ou toutes ces bêtises sentimentales et psychologiques qui torturent finalement l'être humain.
Vous avez bien connu aussi le monde occidental où vous avez fait vos études, donc vous avez fait vos études à Paris, et aussi le monde oriental. Qu'est-ce que vous comprenez par cette expression l'orthodoxie et l'aristocratie de l'Europe?
Je comprends cette phrase au niveau de la culture, pas au niveau de l'événement ecclésial. L'événement ecclésial est au-delà de toutes ces expressions ou toutes ces qualifications. Mais la tradition de l'Église orthodoxe a laissé des traces dans l'histoire d'une culture extraordinaire, des icônes, du culte, de l'apophatisme, de la mystique, du monachisme, etc., etc. Il faut sauver cette aristocratie.
Cette culture qui a été élaborée dans l'Empire byzantin, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que signifie... Vous savez, le terme Byzance, l'adjectif byzantin, c'est une innovation de l'historiographie occidentale. Personne n'appelait à l'époque l'Empire romain de la Nouvelle Rome, de Nova Roma, Empire byzantin. Personne. Alors nous parlons d'une réalité culturelle qui commençait de Moldavie et de Vlachie de l'époque jusqu'au fond de l'Asie mineure, jusqu'à l'Égypte, Italie du Sud, etc. C'est un monde tout entier qui a développé la culture ecclésiale orthodoxe.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors. Je vous souhaite une semaine emplie de joie spirituelle et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM. Wow.